Bonjour, le résistant, cinéaste, écrivain Claude Lanzmann s'est éteint ce matin. Celui à qui l'on doit une œuvre cinématographique monumentale, une œuvre qui a changé le regard et la place du témoignage dans l'histoire. Shoah, Sobibor, ses films ont été comme les pierres angulaires d'un travail mémoriel et historique auquel il a offert de nouvelles voix. Mais Claude Lanzmann ne se résume pas. « Je ne suis ni blasé ni fatigué du monde », avait-il écrit. « Sans vie, je le sais, ne me lasserai pas ». Des vies dans lesquelles il a aussi été le compagnon de route de l'aventure existentialiste des temps modernes, un acteur central et passionné des grands débats intellectuels de son siècle. Une personnalité que l'on a redécouvert sous un autre jour, plus intime, à travers le livre de Patagonie, autobiographie déguisée en roman. Aujourd'hui, nous allons évoquer Claude Lanzmann, dont nous venons d'apprendre la disparition, compagnie de Franck Nouchi, journaliste au Monde, ami de Claude Lanzmann, Gérard Wajsman, écrivain et psychanalyste également proche, et d'Éric Marty, qui devrait faire son entrée dans ce studio, professeur de littérature française contemporaine à l'Université de Paris 7 Diderot et auteur de Sur Shoah de Claude Lanzmann aux éditions Manutius. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Alors, parler de Claude Lanzmann, c'est parler d'abord de Shoah, même si ça ne se résume pas à ça. Pourquoi ce travail d'abord est-il évoqué? Pourquoi ce travail et en quoi a-t-il changé l'image que l'on a pu avoir sur le mot même de Shoah, qui n'était pas celui employé au départ? Il y avait ce terme d'Holocauste qui faisait foi juste avant. Monsieur Wajsman.
Oui, il avait ça cette proximité avec Adam, c'était un nominateur. Il a créé le nom. Même s'il a emprunté le mot à l'hébreu, toujours été frappé du fait qu'ils disent que le choix de ce nom était lié au fait qu'il ne comprenait pas, qu'il ne savait pas l'hébreu, et qu'il ne comprenait même pas le sens de ce mot, mais qu'il lui fallait trouver un nom qui puisse désigner quelque chose qu'il n'avait pas, à ses yeux et à son oreille, eu véritablement de nom jusque-là. Celui d'Holocauste ne convenait évidemment en rien, on l'a démontré. Donc il a nommé quelque chose. Le premier événement de tout ça, c'est que nous parlons aujourd'hui de quelque chose avec un nom qui a été donné par un film. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exemples.
Alors c'est à la fois ce travail de mémoire, ce retour sur le temps et sur le passé, mais c'est aussi ce travail novateur que l'on salue justement chez Gérard Lanzmann.
Chez Claude Lanzmann.
Je crois Gérard que Wajsman,
quand on parle de Shoah, je voudrais citer quelqu'un qui était un proche de Claude Lanzmann, qui a été son médecin, qui est un grand spécialiste de bioéthique, qui est le professeur Didier Sicard. Didier Sicard, quand on lui demandait pourquoi Shoah avait une telle importance, qu'avec Shoah, en tournant Shoah, il faut rappeler que le tournage de Shoah a été une aventure considérable, assez unique dans l'histoire du cinéma, puisque ça a duré 13 ans de tournage. Il n'y a pas beaucoup de films qui ont requis un tel travail.
Dans un format immense aussi.
Format gigantesque et qui a ensuite donné lieu, on en parlera tout à l'heure, à une arborescence de films absolument inégalée, là encore, dans l'histoire du cinéma. Didier Sicard dit la chose suivante: en tournant Shoah, Claude Lanzmann a donné au peuple juif la sépulture qui lui manquait. Je pense que dans cette citation, on comprend très bien l'importance considérable de ce film, à la fois évidemment pour les juifs, mais pour l'humanité tout entière.
Alors pourquoi? Parce que ça correspond aussi à un moment particulier, un moment essentiel de la prise de conscience de ce qu'avait été la Shoah. C'est aussi ce travail sur la forme, faire témoigner et recueillir les témoignages, y compris des bourreaux, y compris en caméra cachée, des témoignages presque sous la forme d'un aveu que l'on attend.
Oui, d'un aveu. Enfin, Claude serait là, il aime pas beaucoup, à mon avis, le mot aveu. Je pense qu'il l'aime pas du tout, d'ailleurs. C'est essayer de retisser les fils qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est impossible à comprendre. Et donc, Claude, en juxtaposant des témoignages, en effectuant un travail considérable qui relève à la fois du travail cinématographique, et je pense qu'il faut aussi saluer les monteuses de Shoah qui ont fait un travail considérable pour arriver à faire ce film, il a fait un petit peu comme les amateurs, vous savez, de très grands puzzles. Il a reconstitué un puzzle inimaginable et inimaginé pour nous.
Y compris avec les vides
y compris avec les vides, y compris avec les silences. C'est très important, les silences, avec une science tout à fait extraordinaire de l'entretien, de l'interview. Claude Lanzmann, allez voir, ça vient de sortir au cinéma, Les Quatre Sœurs, le dernier élément de cette gigantesque aventure de Shoah. Allez voir Les Quatre Sœurs, qui sont au cinéma en ce moment, et vous allez vous rendre compte de ce que c'est qu'interviewer, de ce que c'est que poser des questions, de ce que c'est qu'écouter, écouter jusqu'à obtenir ce qui permet de comprendre l'incompréhensible.
Alors Gérard Wajsman, alors même si Claude Lanzmann n'aimait pas ce terme d'aveu, il y a eu cette particularité qui n'existait pas vraiment avant que lui trouve cette forme-là, qui a été celle d'aller interviewer, y compris au péril quand même de sa propre sécurité, de manière aussi cachée, avec une caméra dans le sac, d'interroger aussi les bourreaux et d'essayer de comprendre cette parole-là, en tout cas de la faire émerger.
Oui, difficile à quelques heures d'apprendre sa mort, de faire déjà au fond le bilan de ça, d'une œuvre considérable dont nous sommes tous les héritiers, parce que vous disiez à l'instant que c'était que ce film qu'il a réalisé venait à un certain moment, etc. Ce qui est tout à fait vrai. Mais ce qu'il faut surtout dire, ce qui rejoint ce que j'évoquais à propos du nom qu'il a trouvé de Shoah, c'est que le film a constitué l'événement. C'est pas qu'il est arrivé un moment pour faire le bilan de quelque chose. Il a créé un événement qui s'appelle Shoah, qui était l'événement qu'on appelle la Shoah, dont il a toujours fait remarquer avec esprit que la Shoah c'était Hitler et que lui il était l'auteur de Shoah, mais qu'il a constitué cet événement, qu'on a compris quelque chose. Il est arrivé un moment au fond où on ne savait pas, on n'avait pas à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1945, on n'avait pas compris ce qu'avait été le traitement infligé aux Juifs et ce qu'avait été ce qu'on appellera depuis l'unicité de la Shoah, sa spécificité. C'est étrangement, c'est un film qui l'a réalisé à tous égards. Nous avons compris quelque chose de cet événement à partir d'un film. Et j'avoue que il y a en effet, là encore, peu d'œuvres d'art, puisque je tiens que c'est une œuvre d'art et une très grande œuvre d'art, qui ait transformé notre manière de regarder l'histoire et notre présent du coup. Donc la Shoah, d'une certaine manière, est une invention du film, même si je rappelle la blague qu'il faisait tout le temps pour se distinguer de ce qu'avait été l'événement créé par les nazis.
On va écouter Claude Lanzmann parler de son film.
À moi-même, le film, je l'ai dit déjà, mais je le répète parce que c'est la vérité, le film me demeure opaque à bien des égards, bien que j'en sache tout, que je connaisse son histoire, que j'en connaisse chaque parole, chaque image, chaque scène, au mot près, je peux le réciter par cœur. Mais je sais que je vais devoir un jour m'expliquer sur Shoah, m'expliquer avec Shoah, d'une certaine façon me l'expliquer à moi-même, et que pour ça je vais devoir écrire un livre. Et par exemple, le texte du film va paraître maintenant chez Fayard. Bon, ce sont les paroles quand il s'agissait de langues que je n'entendais pas, comme le polonais, l'hébreu, le yiddish, etc., où j'avais une interprète qui était dans le corps même du film. Bon, et elle est à l'image, elle est présente, là. Donc là, j'ai respecté, mais au mot près, toutes les hésitations, les redites, les bafouillages, même. Et le reste, quand il s'agissait de langues que j'entendais, donc quand j'avais pas besoin du truchement d'une interprète pour parler avec les héros du film, ce sont les sous-titres. Je n'ai pas donné l'ombre d'une indication d'image, de scène. J'ai pas dit ici il y a une locomotive, ici il y a un panoramique très lent. Ça aurait été ridicule. Ça n'aurait eu aucun sens. Bon, et puis j'avais pas envie de déflorer le film par-dessus le marché. Et donc il y a des silences, puis il y a des blancs. Et c'est incroyable. Je voulais pas faire ça. Et c'est vraiment les gens de chez Fayard qui avaient vu le film. Insister, et j'ai relu ça incrédule, et ça résiste. C'est traversé par une force étrange, ce texte exsangue et nu, si je puis dire, et sans aucune indication d'image, il résiste. Or, ça fait un livre de 260 pages, et ça se lit en 3 heures, si on le lit à voix haute. Et le film dure 9h30. Donc je dis, il y a 6h30 de silence dans le film.
On retrouve avec émotion la voix de Claude Lanzmann et ces silences et ces blancs. Il y a à la fois tous ces mots qui ont émergé, ces mots dans toutes les langues, avec la place qu'on leur accorde, hein, la place donnée aux sous-titres, la place donnée aux langues qui montrent aussi l'ampleur de ce génocide international et sa territorialité d'une certaine manière. Et il y a aussi tout ce travail pour essayer de trouver une forme, une manière de représenter ce qu'il s'est passé. Ça a été la grande quête. Franck Nouchi.
Oui, la forme, il l'a construite en marchant. Je pense qu'au départ, il ne savait pas que Shoah allait être Shoah, tel qu'on a pu le voir. Il l'a imaginé en toute liberté. Je pense qu'il faut insister sur l'immense liberté de cet homme. Il avait un matériau considérable. Il avait 300 heures d'interview.
Dont il a fait 10 heures à peu près de film.
Dont il a fait 9 heures et quelques, oui. Après, il a fait d'autres films parce qu'il s'est rendu compte que de la richesse absolument extraordinaire de ce qu'il avait, de ce qu'il avait trouvé. Mais la forme du film, je rejoins Gérard Wajmat, je pense pas que ce soit aujourd'hui qu'il faille se lancer dans des analyses. Il y a des livres très très savants qui racontent très bien ce qu'est ce film, ce qu'il a apporté. Je pense qu'il faut se souvenir de cet homme et j'insiste de sa liberté. À la fois sa liberté de cinéaste, il a toujours travaillé comme il l'a voulu. Il est allé à la fin de sa vie, à plus de 90 ans, il est allé à Pyongyang, vous vous rendez compte, tourner un film qui est une sorte d'adaptation d'un épisode du Lièvre de Patagonie, parce qu'il avait envie d'aller en Corée du Nord. Vous connaissez d'autres cinéastes qui vont comme ça en Corée du Nord, tourner un film en cachette, en plus, en cachette. Il s'amusait comme un fou à faire ça. Je voudrais qu'on se souvienne de ça, l'extraordinaire liberté de cet homme, de cette faculté tout à fait extraordinaire aussi à émettre des opinions qui pourraient nous apparaître parfois comme contradictoires et qui en réalité, quand on le connaissait bien, quand on parlait longtemps avec lui, on se rendait compte de l'extrême cohérence intellectuelle qu'il y avait derrière tout ça. J'insiste vraiment, c'était un homme libre.
Gérard Wajmat, on parle de l'aventurier alors en Corée du Nord et dans bien d'autres endroits qu'on a découvert aussi dans le Lièvre de Patagonie. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport au voyage, son rapport justement à d'autres territoires? Il était aussi à la charnière entre deux siècles, le compagnon de l'existentialisme, on l'a dit. C'est peut-être un épisode dont il a moins parlé, en tout cas dans les derniers temps.
Oui, mais là encore, l'histoire n'est pas encore à faire. Elle le sera sans doute. Elle a été faite en partie d'ailleurs, à certains égards. Mais oui, je suis touché par ce que dit Franck Nouchi sur sa liberté qui était fondamentale. Il y a au fond deux traits de la personne qui étaient fondamentaux et dont l'œuvre entière témoigne. C'était sa liberté, en effet, et son courage. Vous avez évoqué les risques qu'il a pris, mais ce ne sont pas des risques. Enfin, c'est un courage absolu. Il a eu un courage absolu qui est un courage, y compris un courage de la liberté. Ce courage de faire Shoah, ce courage de penser ce que ça a été et d'essayer de le penser jusqu'au bout. Quand vous passez l'entretien très touchant, enfin sa parole, sa voix qui m'émeut énormément, où il dit que son film à lui-même est opaque et qu'il y a quelque chose qui fait qu'il faudra un jour qu'il se l'explique à lui-même. Il a passé son temps à essayer de percer l'opacité. Il n'a pas été dans la position de montrer un film en brandissant son film, en disant ce film admirable, etc. C'était à lui-même une œuvre qu'il fallait à la fois montrer et défendre, pour qu'il la comprenne. Et que les films qu'il a fait ensuite avec les chutes, enfin avec les rushs qui restaient de Shoah, sont d'une certaine manière un commentaire aussi du film. Une manière pour lui d'avancer dans la compréhension et évidemment d'abord de nous faire nous comprendre un certain nombre de choses.
Alors c'est la démarche même aussi du film, c'est tous ces procédés, c'est 13 années passées à le fabriquer, à tourner, à emmagasiner des informations, à marcher pour essayer essayé de les comprendre. Finalement, ce sont les procédés aussi de fabrication autour de ce film qui ont été cette quête aussi importante peut-être que l'œuvre qu'il en reste.
Bah, c'est tout, les choses ne restent que dans l'œuvre pour le coup, c'est là où nous le voyons. Il y a d'ailleurs encore des rushs qui demeurent avec lesquels il serait pensable de qu'il aurait pu faire un film. Je ne sais pas quel sera le destin de tout ça, mais l'œuvre elle-même, en effet, il a construit, l'œuvre s'est construite en marchant, comme disait Franck Nouchi tout à l'heure, en marchant. C'est-à-dire, il n'avait pas un projet sinon de faire ce film. Et ce film s'est fait, et le film nous a fait, à certains égards.
Alors, le film, on va peut-être en écouter un extrait.
Qu'est-ce qui est mort en lui à Redmond ?
Moi, je suis mort, sauf que je suis mort. Mais je n'ai pas un homme. Il a un homme.
Tout est mort, mais on n'est qu'un homme et on veut vivre, alors il faut oublier. Et ben moi, marche.
Ben moi, vous êtes mort. Et tant que t'as vergessé, vous êtes gavin. C'est comme une chine de mer. Amarat, n'est-ce pas, Stéphane?
Il remercie Dieu de ce qui est resté et qu'il oublie, et qu'on ne parle pas de ça.
Et est-ce qu'il trouve que c'est bien d'en parler?
Et n'y est pas assez guet, reine de fin?
C'est n'est pas guet. La mienne est n'est pas guet.
C'est pas bien. Pour moi, c'est pas bien, dit-il.
Alors pourquoi est-ce qu'il en parle quand même?
Une favoserie de fin?
Ja, jetzt müssen wir reden, wenn wir so reden.
Mit
dem linken Bier haben wir gekriegt, von Eichmann auf dem Prozess durch, bin ich wieder neid, ist mir da. Ich lese nicht, ich kann nicht lesen.
Il parle parce que maintenant il est bien obligé de parler. Mais il a même reçu des livres sur le procès d'Eichmann où il était un témoin. Et il ne les lit même pas.
La représentation, c'est aussi, Franck Nouchi, une manière de sortir de cette chape de plomb, de ces non-dits. Au moment où il entreprend ce film, il y a cette question de prendre aussi à bras-le-corps cette quête. Là, on entend cette question d'en parler sans en parler.
On entend beaucoup de choses dans cet extrait que vous avez passé. On entend ce qu'on entend très rarement au cinéma. On entend un bruit de fond, avec peut-être des enfants qui jouent, avec des gens qui vont et qui viennent. On entend un rythme particulier, c'est pas monté. C'est-à-dire que la parole prend toute sa place, la question prend toute sa place, la traduction prend toute sa place, la réponse prend toute sa place, et du coup, on est comme happé par ce qui se dit. On est fasciné par ce qui se dit et on comprend énormément de choses en écoutant cet extrait. Je pense que là, vous avez vraiment l'essentiel du caractère unique du travail de Claude Lanzmann. On restitue. On n'intervient pas, on restitue. On relance les gens, on leur repose des questions et on s'approche petit à petit d'une vérité. Il va finir par aboutir à quelque chose qui ressemble à la vérité qu'on n'arrivait pas à définir auparavant. Mais écoutez bien, écoutez, c'est même pas la peine de regarder. Alors quand on regarde après, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Gérard Wajsman tout à l'heure, c'est une immense œuvre d'art, Shoah, mais écoutez simplement, écoutez.
Alors c'est une immense œuvre d'art aussi parce que Claude Lanzmann, il apparaît lui-même à l'écran, beaucoup parfois seul, il y a cette manière aussi d'être dans l'image,
pas tellement,
de se représenter.
Quand vous dites beaucoup, non, je suis pas d'accord.
Pas beaucoup, il a mesuré à chaque fois ses apparitions. Par ailleurs, ce à quoi j'étais en train de penser, c'était il est en train d'interroger tout de même. Shoah est lié aux témoins. Il a fait parler les témoins. Et il n'a pas été chercher n'importe quel témoin, il a été chercher les témoins de ce que personne n'avait pu voir et dont personne n'avait porté le témoignage, véritablement. Et d'un seul coup, ce qui m'a traversé en pensant à ça, en écoutant cet extrait de Shoah, c'était évidemment que que l'âge des témoins est en train de se clore et que la mort de Lanzmann est aussi le moment où quelque chose de la mort des témoins se sanctionne à cet égard et que c'est aussi un fait qui moi me bouleverse puisque lui a inventé finalement quelque chose, cet événement qui nous a fait comprendre à partir des témoins et que nous sommes en train nous de penser quel témoignage Lanzmann lui-même, ce qu'on fait quand on parle de lui, c'est de pouvoir dire un mot sur le témoignage que Lanzmann amène sur, non pas seulement son œuvre, mais sur ce dont son œuvre a rendu compte.
Alors, si je peux peut-être intervenir.
Oui, absolument, Éric Marty.
Oui, effectivement, Lanzmann n'était pas, enfin, n'est pas omniprésent dans le film, mais il n'est pas non plus absent, c'est ça que je veux dire.
Il n'est
pas non plus
dans
l'effacement et dans une pseudo-objectivité ou dans une pseudo-impersonnalité du documentariste. Il est quand même présent, mais présent de manière ponctuelle, économique, si j'ose dire, et sa présence est toujours signifiante. Par exemple, lors des dialogues avec les Polonais, entre guillemets, où il y a la traductrice, et là, il y a un trio qui se forme, et le regard que porte Lanzmann, ou le non-regard, car souvent il ne regarde pas ceux qui parlent, le non-regard de Claude Lanzmann est très, très signifiant, très, très important, son silence aussi, sa manière d'écouter la traduction, tout en écoutant les propos en polonais, il y a là des jeux de sa personne qui ne sont absolument pas dans une présence qui serait vaniteuse ou narcissique, au contraire, mais il y a tout de même une présence, et puis, puisqu'il est mort et qu'on peut parler de lui, moi j'étais très sensible à sa beauté, à la beauté de sa présence, la beauté de son visage, la beauté de son regard, et puis ce qui m'a toujours bouleversé quand je voyais Claude Lanzmann, aussi bien dans Le Dernier des Injustes, que dans Les Quatre Sœurs, que dans le Shoah, c'est qu'on le voit au fond à un âge où je ne l'ai pas connu. On le voit plus jeune, on le voit avec une gueule qui est celle de cette époque. Et c'est aussi quelque chose d'important de dire ça maintenant.
Et lui, sa gestuelle aussi, sa manière d'interroger, qui passe aussi par sa présence physique. Mmh. Il a aussi, ce travail s'est prolongé aussi dans ses prises de position plus tard. Alors, il y a eu le montage des Rush et d'autres films, mais il y a eu aussi des prises de position, et notamment par rapport aux films de fiction qui pouvaient être faits sur la Shoah, et une totale liberté dans, justement, la manière de penser qu'on pouvait représenter les choses. Éric Marty.
Oui, je crois qu'il était. Je crois qu'il y a eu plusieurs périodes aussi. Il y a eu des conjonctures qui imposaient peut-être d'une certaine forme de, non pas d'agressivité, mais en tout cas de résistance à tel type de représentation. Alors notamment, il y a quand même l'Holocauste qui est historiquement en quelque sorte qui précède Shoah. Holocauste, qui est une série américaine qui est peut-être oubliée maintenant, en tout cas qui a une importance très très grande à l'époque, dans les années, je dirais, 80 peut-être, j'ai du mal à situer exactement la chronologie, qui est là vraiment la fiction dans ce qu'elle peut avoir de plus télévisuel de la Shoah, et puis il y a Spielberg. Bon, il y a donc deux approches, l'une qui est quand même beaucoup plus élégante, celle de Spielberg, mais qui malgré tout pose des problèmes, et auxquels Claude Lanzmann a résisté, mais pas du tout de manière, je dirais, agressive. Et avec, je pense qu'il il avait d'ailleurs de très bons rapports avec Spielberg lui-même, qui admirait beaucoup Claude Lanzmann. Ils se sont rencontrés à Cannes, notamment, et Claude Lanzmann, mais je pense que les personnes qui sont là ici pourront témoigner, il nous a tous raconté comment Spielberg, voilà, lui a dit... you despite me. Vous me méprisez.
Oui.
Voilà, oui, oui. Claude Lanzmann arrive à la table à Cannes et voilà. Voilà. Spielberg, you despite me. Non, 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 pas du tout. Je pense que Claude Lanzmann ne méprisait pas Spielberg, mais il y avait évidemment, pour des raisons là vraiment historiques, très profondes, des choix esthétiques qu'il fallait faire et avec lesquels Lanzmann n'était pas d'accord.
Franck Nouchi, pardon.
Je pense qu'il faut dire quelque chose que peu de gens, finalement, à mon avis, savent, c'est que Claude Lanzmann était passionné par le cinéma des autres. C'est quelqu'un qui passait son temps à regarder des films des autres. Et si je vous disais ce qu'il regardait surtout, vous seriez extrêmement étonné. Par exemple, il a une passion sans limite pour les films de sous-marins. C'est quelqu'un qui pouvait en regarder à la chaîne, comme ça. Il adorait ça. À La Poursuite d'Octobre Rouge, je me rappelle quand il l'a découvert, il était fou. Un film comme Das Boot, qui est un film allemand, je vous garantis qu'il faut, dans sa version longue, il faut le regarder. Il pouvait le regarder trois fois dans la journée. Il adorait regarder. Je me rappelle d'un jour, il m'avait appelé en pleine nuit et il me dit qu'il avait vu Dersu Uzala de Kurosawa et il s'est mis à me parler de Kurosawa. C'était magnifique. Le grand cinéma américain des années 50, il le connaissait sur le bout des ongles. Il allait au cinéma avec Sartre voir des films américains, des mélodrames, ils se mettaient tous les deux à pleurer. Tout ça pour dire que Claude Lanzmann, contrairement à ce qu'on a pu penser, n'est pas du tout, mais pas du tout, hostile à la fiction. Il adore le cinéma de fiction et même... S'agissant de la Shoah, on a été surpris quand, il n'y a pas très longtemps, quand est sorti Le Fils de Saul, il a d'une certaine façon cautionné. Alors ça a été un peu compliqué, mais il a d'une certaine façon approuvé le Fils de Saul et il a dit publiquement combien il trouvait de qualité à ce film. C'est un vrai cinéaste parmi les cinéastes, Claude Lanzmann. Il faut vraiment avoir ça en tête aussi.
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cinéma, mais Claude Lanzmann, c'est aussi toute cette expérience existentialiste, les temps modernes, et aussi cet intellectuel aussi au cœur des débats. Je vous propose de l'entendre. Alors là, on va parler de sa rencontre avec Sartre. C'était le 14 décembre 2005 qu'il en a fait la confession.
Quand je suis revenu en France... J'ai quand même écrit une série d'articles que j'ai envoyés au journal Le Monde, où je ne connaissais personne, et ça a été... Trois jours plus tard, j'avais un appel. Il m'annonçait qu'il souhaitait publier ses articles, et c'est paru dans Le Monde sous le titre « L'Allemagne derrière le rideau de fer ». Voilà, et Sartre les a lus, et c'est comme ça qu'une rencontre a été... organisé, je l'ai vu à la fin d'une conférence, il était très, très aimable, très chaleureux, et c'est là où il m'a demandé de venir au temps moderne. Et oui, c'est ainsi que j'ai rejoint les temps modernes.
Alors les temps modernes, cette expérience qui durera une trentaine d'années entre sa collaboration et le moment où il devient le directeur. Éric Marty, comment on pourrait évoquer cette expérience qui est aussi la charnière d'une époque, puisque
absolument.
Le Sartre qu'il rencontre justement.
Il en parle très bien dans le livre de Patagonie, qui est un livre aussi que j'aime énormément. Entre autres pour ça, entre autres pour la capacité qu'avait Claude Lanzmann à penser sa propre existence dans un rapport à l'histoire et au, là encore aux conjonctures très spécifiques et à savoir justement peut-être en faire le deuil par moment. C'est-à-dire que Lanzmann participe en effet à l'aventure du temps moderne dans toutes ses dimensions, effectivement politiques, notamment évidemment par rapport à la guerre d'Algérie. Il raconte très bien son rôle de porteur de valise, enfin ses jours là-bas, ses liens avec les gens du FLN. Et sans jamais renier d'ailleurs cette expérience, néanmoins, c'est une expérience qui est morte pour lui, qui est historiquement fermée. Et il raconte d'autant mieux que je dirais qu'il sait en effet penser politiquement ces différentes séquences. Je pense que par rapport à l'automne moderne, il y a aussi évidemment Simone de Beauvoir qui est le lien qui est très, très fort et la relation amoureuse très, très importante, la liaison qu'ils ont. Et puis la relation, je pense, à Sartre aussi comme personne. Il y a une chose, je vais tomber un peu dans l'anecdote, mais qui m'a toujours frappé, c'est quand un jour il m'a dit oui que... Il avait moins aimé Sartre lorsque celui-ci avait cessé de porter la cravate, qu'il était passé au costume populo du blouson et du polo. Et ça a l'air d'insignifiant, mais en fait, c'est très profondément Claude Lanzmann. Ce sens, justement, d'un rapport d'abord au corps, au symbole corporel, au rapport personnel, individuel, une dimension idiosyncrasique de sa relation au monde.
De la posture intellectuelle aussi, qui s'incarne même dans le costume.
Exactement, parce que Sartre... Alors je crois qu'il aimait beaucoup la position du Sartre en costume, avec ce costume, sa cravate, cette espèce de dureté que ça donnait à Sartre, et l'amollissement peut-être qu'il a cru voir, à tort ou à raison, dans le passage de la cravate au col ouvert du polo.
Alors il faut dire qu'il y a deux Sartres qu'il a côtoyés. Il y a le Sartre de l'intimité et cette figure intellectuelle avec laquelle il rentre en débat aussi.
Oui, et puis j'oublie, ils sont allés en Israël ensemble, c'est très important. C'est le grand numéro de temps moderne sur Israël et les Palestiniens, où les Palestiniens d'alors ne sont pas les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est-à-dire sont en mesure justement de penser politiquement leur situation historique, de faire des choix et de dialoguer. Et Claude Lanzmann est quand même celui qui est au cœur de l'aventure de ce numéro très important de l'État moderne, où il y a réellement un dialogue entre Palestiniens et Israéliens. Et à cela, c'est un numéro énorme, qui fait 400 pages. Hein. Et puis, il y a le séjour en Égypte et en Israël avec Sartre et Beauvoir. Donc, tout cela, ce sont des pensées aussi humaines, très profondes.
Alors, on va faire un petit détour par justement le Claude Lanzmann amoureux, amateur de femmes, dont il a beaucoup parlé aussi dans le livre de Patagonie. On va écouter Lanzmann qui lit lui-même une lettre que lui a envoyée Simone de Beauvoir. C'était en février.
Mon amour chéri, mon petit enfant adoré, tes larmes, comme je t'aime pour ces larmes, encore mille fois plus. Elles m'ont ravagé le cœur. C'est prodigieux. On croit qu'on est au paroxysme de l'amour, et puis on monte encore plus haut. C'est ça le vrai infini. Alors bon, attendez. Sartre, je l'ai aimé, certes, mais sans vraie réciprocité. Algren, ça m'a bouleversé qu'il m'aime, et moi je l'ai beaucoup aimé aussi, mais surtout à travers l'amour qu'il avait pour moi. Toi, mon enfant chéri, tu es mon premier amour absolu, celui qu'on ne connaît qu'une fois ou jamais. Je suis ta femme à jamais. Ton Castor. C'est pas mal quand même.
Gérard Majman, ça vous fait tous rire autour de la table.
Non, mais c'est tellement Claude, tellement. Moi, je suis touché. Enfin, vous dites, on n'est pas dans la position de pouvoir faire la biographie de Claude Lanzmann ni maintenant, ni plus tard, parce que c'est un homme et une œuvre immense. J'étais évidemment très sensible, touché par ce que disait Eric tout à l'heure. Je pensais à sa beauté, à la question de la beauté. C'est quelqu'un qui était sensible à la beauté des corps, dans les amours, bien entendu, de son rapport aux femmes, mais la beauté des hommes. Il était toujours attentif, même à la beauté des hommes, et pouvait vous faire reproche de ne pas être aussi beau que vous pouviez éventuellement l'être. Et la remarque qu'il a pu faire à l'époque, je ne connaissais pas à Sartre, devait aussi relever de ça. Mais c'est une question aussi qui le préoccupait lui-même et qui importe beaucoup. La question de la maladie, parce que aujourd'hui, qu'il vient de mourir, je suis attentif au fait que il a été, bien sûr, je l'ai vu, même on s'est parlé ces dernières semaines, dans une grande ambivalence entre cette volonté fondamentale, formidable de vivre qui était chez lui, et la volonté de que cette vie-là ne soit pas entamée par la maladie ou par quelque chose qui mettrait son corps, qui diminuerait quelque chose de son corps. Et je n'étais pas, moi, aujourd'hui, cette nuit à l'hôpital, mais je sais qu'à un moment, il a attendu, finalement, que la mort vienne et qu'il n'y avait plus cette ambivalence. J'ai bien compris ça et je le reconnais tout à fait là. C'est tout de même quelqu'un qui a été très préoccupé par ça. Pas du tout par une fascination narcissique de sa beauté, pas du tout, mais qui était sa stature même de ce qu'on y dit, son homme un mensch, qui fait qu'il m'envoyait, qui me faisait rire, qui faisait rire tous ceux qui pouvaient éventuellement recevoir la même image. Il m'a envoyé des images de lui plongeant du plongeoir de 10 mètres pour que j'admire évidemment sa performance quand il avait 90 ans encore, enfin je sais pas, il y a quelques années encore.
Mais c'est l'idée d'avoir aussi un corps.
Mais c'est l'idée d'avoir un corps et que ce corps soit en jeu à la fois dans l'amour, il l'a mis en péril dans le travail chaque fois qu'il a fait toute l'œuvre l'a mis en péril, il a été en péril aussi quand il le raconte à l'occasion, quand il monte dans un avion à réaction de l'armée israélienne et que il se fait péter les tympans parce que il a mis son corps absolument tout le temps en question, mais pas du tout, je le redis, pas du tout dans une position narcisse, pas du tout, mais dans l'idée que ce corps était aussi son un instrument avec lequel c'était sa puissance qu'il exerçait avec aussi son corps, outre la puissance de son esprit.
Franck Nouchi.
Il aimait prendre des risques, il aimait les extrêmes, beaucoup. Il pouvait pas faire quelque chose, quand il partait en vacances, par exemple, sans qu'il lui arrive quelque chose. C'est-à-dire, il se cassait la figure, il s'ouvrait la jambe, il tombait malade. C'était toujours extrême, ce qui lui arrivait. Et cet homme, d'une certaine façon, que moi j'ai tendance à considérer, le mot ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi c'est vraiment un géant, un des derniers des géants, il adorait ça, aller au bout de quelque chose. Quand il allait faire du ski, il fallait toujours qu'il aille prendre les murs les plus invraisemblables à 80 et quelques années. Et il vous appelait après, il vous disait « ouais, j'ai réussi à le faire ». Il rêvait de sauter en parachute, il rêvait de trucs, mais de plonger à 200 mètres. Il aimait ça, il aimait l'aventure, il avait horreur du confort. Je suis d'accord, il était absolument pas narcissique dans cet exercice-là. C'était au fond l'idée qu'il était capable de se prouver des choses dont on n'avait pas idée et dont lui-même n'avait pas idée.
Quand c'est l'expérience de l'intensité aussi.
L'intensité maximum pour tout, dans tout, toujours.
Éric Marty, dans cet extrait, dans cette lettre qu'il a lue de Simone de Beauvoir, alors on parlait du rapport aux hommes, du rapport aux femmes, il est aussi comparé aux amants et aux amours de Simone de Beauvoir. Ouais. Alors Algren, Sartre, c'est quelque chose qui lui plaisait, qu'on a beaucoup retrouvé dans le livre de Patagonie, cette comparaison aux autres amants.
Mais je crois qu'il avait aussi un rapport absolument pas monogame, je dirais. Le monogame n'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas, il n'est pas un rapport d'exclusivité, justement, dans le rapport amoureux, qu'il était quelqu'un qui avait plusieurs femmes et qui était dans le multiple. C'est-à-dire, parce que tous ces mots d'amour que dit Simone de Beauvoir, mon enfant chéri, tout ça, j'ai cru entendre Claude qui me disait ça à moi, mon enfant chéri, mon chéri. C'est très bouleversant parce que, alors justement, moi je viens de l'hôpital Saint-Antoine où il vient de mourir et j'ai encore son visage présent et les derniers jours. Et ces mots étaient des mots d'une affectivité extraordinaire. C'est quelqu'un qui avait une forme de relation amoureuse au monde, aux individus, où la distinction des sexes était bien sûr très présente, mais qui lui l'autorisait au fond à ces mots d'amour à un homme, à un jeune homme, à un ami, à une femme, etc. Et aussi un rapport corporel très fort, étreindre Claude en arrivant chez lui, l'étreindre, le serrer contre soi, l'embrasser. C'était un moment d'une très grande beauté, d'une très grande... J'étais toujours ému par ce contact avec son corps et réciproque, et dans une amitié, il me semble, d'un autre âge. Il me semble que c'est une époque de l'amitié qu'incarnait Claude, un type d'amitié qui peut-être a disparu, en tout cas que j'ai pas trouvé ailleurs qu'avec lui. Et c'est une histoire aussi de l'amitié que le corps de Claude Lanzmann peut-être écrit et possède. Et ces mots, il les prononce avec beaucoup de plaisir parce que ces mots à lui aussi, ces mots d'amour. Et sur la mort, en effet, je crois que personne, peut-être plus que Claude Lanzmann, ne savait qu'il allait mourir et n'avait précisément cette conscience de la mort, tant il l'avait très souvent risqué de manière volontaire, de manière parfois enfantine. En effet, comme le racontaient nos amis, mais moi aussi j'ai le même témoignage, où il partait en vélo faire des côtes énormes. Il m'appelait « Écoute Eric, mon cœur qui bat !» Et le cœur battait, en effet, à un rythme effroyable. J'étais affolé pour lui. Et voilà, donc c'est magnifique en même temps. C'était tellement beau de voir cette... Il avait 80 ans à l'époque. Hein. Et voilà, c'est que la mort était pour lui quelque chose dont il était profondément familier. Et l'expérience de Shoah, car il faut y revenir bien sûr, l'expérience de Shoah n'est compréhensible, le film Shoah n'est compréhensible que parce que ce film a été fait par un homme qui savait ce qu'était la mort, qui en était très proche et qui l'avait en quelque sorte fréquenté dans les 9 ans où il a fait Shoah.
Et un peu défié tout le temps aussi.
Défié tout le temps. défier tout le temps, oui, effectivement.
Franck Nouchi faisait allusion à la liberté de Claude Lanzmann, à la liberté qui passait aussi par le corps. Quand on lit le livre de Patagonie, on se dit aussi que même si vous dites c'est une amitié, une page qui se tourne, oui. Pourtant il n'appartient pas tant que ça à son époque. Il est très précurseur des libertés de corps, des libertés dans la manière de penser aussi, les relations.
C'est vrai, mais il n'aimait pas trop notre époque tout à fait actuelle. Hein. Il se sentait au
laquelle
fond,
parce qu'il avait 91 ans, il en a traversé
l'époque
plusieurs.
Du politiquement correct, l'époque justement de l'antisubjectivité, l'époque du sociologisme généralisé, l'époque de la haine, de la singularité, l'époque des normes, quelque chose qui lui l'épouvantait. Et en effet, il était, je crois, il se sentait quand même pas, comme d'ailleurs, comme il n'est pas le seul. Pas forcément très heureux dans la conjoncture tout à fait contemporaine.
Dans le livre de Patagonie, on a redécouvert une voix plus intime, même si c'est son regard à lui sur ce parcours. Alors, c'était pas tout à fait des mémoires, c'était un retour sur ce parcours. Comment est-ce que vous qualifieriez cet ouvrage, Gérard Wajmann, une autobiographie dissimulée, quelque chose aussi de très romanesque dans l'écriture?
C'était pas très dissimulé.
Pas très dissimulé, mais quand même très, très écrit, comme un roman aussi.
Oui, oui, très écrit. Et il a entrepris dans Lièvre de Patagonie, me semble-t-il, quelque chose à quoi il aspirait. C'était d'acquérir une nouvelle position qu'il n'avait pas occupée jusqu'alors, qui était celle d'écrivain. Il attendait de ce livre une reconnaissance, qu'il y ait une reconnaissance de Claude Lanzmann comme écrivain. Et je crois qu'on la lui a donnée, et de façon totalement légitime. Le livre est magnifique. Il serait peut-être passé à autre chose après. C'est-à-dire, c'était pas la reconnaissance de l'écrivain dont il disait « j'abandonnerai à partir de là tout ce que j'ai pu faire avant ». C'était une nouvelle conquête qu'il s'était donnée à lui-même, qu'il voulait réaliser, qu'il a réalisé dans un livre. Il avait sans doute encore d'autres projets en tête.
Alors, une nouvelle conquête. Il y avait eu l'écriture tout le temps, et pourtant c'est une conquête relativement tardive, Franck Nouchi.
Oui, ça tient d'abord à son travail de cinéaste qui l'a occupé énormément, et donc il fallait qu'il trouve le temps pour écrire un livre comme Le Lièvre de Patagonie. Il faut bien se rendre compte qu'à la fois être cinéaste était très important pour lui, mais je me demande si être un grand écrivain n'était pas aussi son rêve absolu.
Alors, est-ce que l'image de Sartre n'a pas été trop forte?
Non, c'est pas ça.
Est-ce qu'elle l'a pas empêché?
Non, pas du tout. Il aimait la grande littérature. Il aimait par-dessus tout Victor Hugo. Il pouvait passer, quand je vous dis des nuits entières, c'est vraiment des nuits entières. On pouvait démarrer à 11 heures du soir et se retrouver à 5 heures du matin. Il n'avait pas arrêté de déclamer des vers de Victor Hugo. Il pouvait passer des heures à faire ça. C'est quelqu'un qui pouvait vous réciter par cœur La Chartreuse de Parme. Il avait une mémoire absolument considérable et il adorait apprendre par cœur des grands auteurs. Il n'y a pas très longtemps encore, il n'arrivait pas à dormir, il avait beaucoup d'insomnie. Et le matin, il nous téléphonait, je pense qu'il a dû le faire aussi à nos deux amis, et il me disait « Oui, bah finalement, j'ai passé la nuit à apprendre du Racine. C'est très bien, Racine. » Et il se mettait à réciter du Racine à 90 ans. Apprendre du Racine par cœur à 90 ans, je nous le souhaite à tous, c'est pas évident. Et donc, cette fascination qu'il avait pour la grande littérature, il écrivait extrêmement bien, il s'exprimait extrêmement bien dans un français quasi parfait, avec des mots très choisis. La grammaire pour lui avait une importance considérable, il faisait très attention à ça, même si ça lui venait assez naturellement. Et donc, il était plus fasciné par Victor Hugo que par Sartre, d'une certaine façon. Si on parle de littérature, Victor Hugo était un personnage qui lui paraissait absolument considérable et il aurait adoré se mesurer à Victor Hugo.
Mais alors, c'est ça qui aurait retardé l'écriture ?
Non, je pense pas. Non, c'est une question de temps. C'est un boulimique aussi, Claude. C'est-à-dire qu'il voulait tout faire. Il voulait aimer, il voulait filmer, il voulait voyager, il voulait faire plein de choses. Faire la guerre, pourquoi pas ? Encore qu'il aimait pas ça. C'est compliqué. C'est un anarchiste, Claude Lanzmann aussi. C'est compliqué. Il l'a fait, il a été résistant. Voilà, c'est un mélange très, très compliqué de tout ça.
Oui,
Eric Marty.
Donc Franck parlais du fait qu'il récitait en effet par cœur du Rimbaud, du Hugo, mais il ne faut pas oublier que son livre, il l'a écrit en le disant. C'est-à-dire que c'est un livre qu'il a dicté.
Il l'a dicté.
Et ça, c'est très important parce que sa phrase était aussi corporelle. Sa phrase était aussi, venait aussi de son corps et de du rythme de sa voix. Et le fait qu'il ait tellement de plaisir à nous réciter en effet le Bateau ivre ou Boswell, Sans mots sur la mort, ou Racine, ou Hugo, ce plaisir n'est pas un plaisir seulement de récitateur, c'était aussi un plaisir de créateur qu'il avait eu. Absolument. En écrivant le livre de Patagonie, qu'il a donc dicté à Juliette, Sarah,
Juliette Simon, et sa secrétaire, qui ont joué un rôle formidable dans tout ça, mais qui ont produit de l'écriture. C'est-à-dire qu'il a un livre qu'il a dicté. Et par ailleurs, en effet, nous avons tous le souvenir ici, chacun de le sien, mais aller dîner avec Claude, ça pouvait être à l'occasion d'attendre, d'avoir son assiette sous le nez et d'attendre qu'il ait fini de vous dire le Bateau ivre intégralement. Et il m'a fait le coup plusieurs fois, y compris à l'époque, quand il faisait, si on allait dîner avec son fils, il avait demandé à son fils d'apprendre à son tour le Bateau ivre. On avait deux fois le Bateau ivre avant de toucher à son plat de pâtes. C'était tout
avant et après le dessert.
Mais avant et pendant et tout le temps.
J'ai un souvenir d'ailleurs qui concerne France Culture. L'actuelle directrice de France Culture, Sandrine Trainer, lui avait proposé de faire des émissions spéciales sur lui, une masterclass, toutes sortes de choses. Et lui répondait invariablement la même chose. Je veux faire une émission de récitation. Je veux réciter à la radio. C'est ça qui serait pour moi le plaisir absolu. C'est réciter, réciter, réciter.
Réciter. Vous êtes sur France Culture, c'est la grande table d'été. On rend hommage aujourd'hui à Claude Lanzmann, dont on vient d'apprendre la disparition. On parlait de fiction, d'écriture, de la littérature qu'il aimait. La littérature telle qu'il l'a écrite, ça a été aussi l'occasion de revenir sur son histoire intime, son histoire aussi d'enfance, qui était moins connue. Je vous propose de la réécouter dans sa voix.
D'abord, moi, j'ai envie de dire que je suis un Français depuis longtemps, depuis très longtemps, parce que mon grand-père paternel est né en Biélorussie, dans la région de Minsk. Je crois avoir retrouvé d'ailleurs le petit village, le petit shtetl, où il est né, d'une famille très nombreuse, comme étaient les familles juives à l'époque. Et il a été pris par le grand mouvement de migration des Juifs d'Europe de l'Est vers l'Ouest. Et il a quitté donc le shtetl à l'âge de 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus exactement, avec un frère plus âgé que lui. Direction Ouest. Les deux enfants se sont arrêtés à Berlin. Ils sont restés longtemps, ils ont appris le métier de tailleur. Bon, mais ils voulaient aller plus à l'ouest que Berlin, et le but c'était les États-Unis, l'Amérique. Donc il a quitté Berlin, il est passé par Paris, il est tombé là sur ma future grand-mère, qui elle-même était née à Riga, en Lettonie, qui avait quitté Riga pour la Hollande. Son père était d'ailleurs rabbin en Hollande, et elle partait elle-même aux États-Unis rejoindre une de ses sœurs. C'est une histoire tout à fait classique chez les Juifs. C'est le tour du monde.
Éric Marty, le tour du monde, nous dit Claude Lanzmann, cette histoire d'exil d'Europe de l'Est en France, et puis on pourrait continuer l'histoire vers Israël aussi et ses territoires. Qu'est-ce que, justement, ça vous a, vous, appris quelque chose dans la lecture du livre de Patagonie, cette histoire intime telle qu'il a pu la raconter et la mettre par écrit?
Tout à fait, mais alors peut-être avant, vous parlez de l'Est, en même temps, Claude Lanzmann avait une horreur de l'Est. Quand il tourne Shoah, l'Est est insignifiant, je dirais négatif et pas répugnant, mais phobique.
Dans la période soviétique, pendant la période.
Non, ça, on parle, c'est pas du tout lié au soviétisme, c'est lié à une sorte de imaginaire, d'imaginaire géographique, qui faisait que l'Est était pour lui s'enfoncer dans la tristesse, dans la mort, dans la mélancolie, dans la dépression. Et Oui, il y a toujours cette idée de que les nazis vont toujours plus à l'est. Il y a cette phrase, dans cette phrase Shoah, il y a cette idée de toujours plus à l'est dans la manière de d'évacuer les juifs et de trouver des lieux d'extermination. Et donc l'est était à la fois le lieu d'où venait en effet sa famille, et en même temps il y a une sorte chez lui de quand il raconte dans l'œuvre de Patagonie justement le tournage en Pologne et tout ça, il déteste réellement le territoire, l'espace. Et il y a un rapport donc ambivalent par rapport à ça. Maintenant, en effet, j'ai aussi énormément, enfin, j'ai lu Le Fief de Patagonie de manière assez particulière parce qu'en réalité, Claude me convoquait pendant qu'il l'écrivait, me convoquait le dimanche chez lui et me donnait une liasse de papier à lire pour que je fasse les commentaires. Donc, j'étais dans une relation de lecteur, de work in progress, si on peut dire. Alors, lui proposant des ajouts, des modifications, le plus souvent d'ailleurs, faisant les éloges sur tel ou tel passage. Et donc, c'était une lecture très particulière. J'étais dans sa chambre, lui travaillait dans son bureau avec ses amis et secrétaire ou assistante. Et je lisais donc assis sur son lit ces passages. Et puis après, il venait et on en parlait. Donc, j'ai eu une lecture assez particulière du livre, mais que j'ai relu bien sûr après. Donc, une fois imprimé, une fois devenu ce gros volume très beau, très aussi par sa massivité. C'est un livre que Claude aimait aussi, peut-être parce qu'il était gros, qu'il était énorme, qu'il avait cette puissance en même temps du volume. Voilà, le volume, le livre comme volume, c'est important. Et en effet, j'ai récemment, chez lui, je lui ai lu à un moment un passage du livre de Patagonie. Parce que j'avais beaucoup de mal à parler avec lui, il était devenu de plus en plus... C'était compliqué quand même, les derniers temps. Donc je lui ai lu un chapitre, celui où il va chez André, pour acheter des choses avec sa mère, qui est bègue, et dont le bégaiement effraie Claude, angoisse beaucoup Claude, et aussi le nez juif de sa mère, qui fait qu'il craint qu'elle soit repérée, et c'est en 42, ils sont chez André, et donc il y a ce bégaiement maternel qui l'angoisse beaucoup, et j'ai lu ce passage, c'était un moment très, très beau, très, très émouvant.
Franck Nouchi.
Oui, juste, je voudrais ajouter une chose à ce qu'a dit Eric, à propos de l'Est, il faut peut-être faire un tout petit correctif. Claude adorait l'Allemagne. L'Allemagne était un pays qui comptait énormément pour lui. La culture allemande était très importante. C'est un pays dans lequel il s'est toujours senti bien, où il aimait aller, retourner, etc.
Et il a passé beaucoup de temps à Berlin.
Il a passé énormément de temps et il aimait jusqu'à récemment aller en Allemagne. Il aimait les Allemands. C'est à mon avis très important ça.
Et c'est vrai. Et même, il est allé à Saint-Pétersbourg. Donc
j'allais parler de la Russie.
Voilà, exactement.
Ouais, ouais. Vas-y. Il aimait aussi beaucoup la Russie. La Russie soviétique lui plaisait beaucoup. Toute l'imagerie soviétique lui plaisait énormément. Et je pense que, juste encore une chose, une petite notation à propos du lièvre de Patagonie, une de ses grandes fiertés à propos du lièvre de Patagonie, et ça dit son attachement à la France, c'est que ce livre a été édité chez Gallimard. Il était heureux que ce soit dans la Blanche, chez Gallimard. Pour lui, c'était une manière de s'intégrer à ce pays. Gallimard, pour lui, était vraiment ce qu'on faisait de plus beau en France, la grande, grande maison d'édition.
Gérard Wajsman, on parle d'intégration. Dans cet extrait, Claude Lanzmann, lui, parle aussi de cette histoire sur plusieurs générations, mais cette histoire d'identité qui évolue du shtetl à la France, et puis il y a la Shoah. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont il a interrogé, lui, sa propre identité, puisqu'il dit « moi, je suis français depuis longtemps ».
Oui, lui est français depuis longtemps, il revendiquait ça d'ailleurs, mais ces identités multiples dont on peut parler, parce que c'est tout de même un juif d'affirmation absolue, c'est tout de même quelqu'un, moi il me reprochait, il plaisantait sur le fait que j'étais tout de même un petit juif venu de contrée, venu par mes parents de la Pologne, etc., tandis que lui pouvait revendiquer... cette tradition française, etc., alors qu'entre nous, vous ne voyez pas très bien la différence, et nous nous sommes moqués, finalement, l'un de l'autre, beaucoup à cet égard. Je voulais ajouter, à propos de la remarque tout à fait juste, à propos de l'Allemagne, c'est pas simplement qu'il aimait l'Allemagne et que l'Allemagne est à l'Est, c'est tout de même, et c'est frappant, c'est un rapprochement, qu'on pourrait peut-être en faire d'autres, mais c'est pas mon problème. La mort récente de Simone Veil, c'est tout de même quelqu'un qui a été résistant, Claude. Il a été résistant dans le centre de la France, il s'est battu, et comme juif, il s'est battu, etc. Et il va être un des tout premiers à partir en Allemagne, où il a été enseigné, je me souviens plus très bien des dates, mais peut-être Eric s'en souviendra mieux.
Juste après la guerre.
Juste après la guerre. Mmh. Il a été enseigné en Allemagne. Mmh. Et donc, il y avait quelque chose de ce rapport-là qui n'est pas du tout ce qu'on aurait pu imaginer ou attendre de la part de quelqu'un d'une rigueur absolue sur sa position. À la
quelque
fois
chose
de français,
clair.
De juif et de résistant, qui aurait pu vouer l'Allemagne aux gémonies. Pas du tout. C'était, en effet, il a été enseigné la philosophie. En Allemagne. Et ça fait partie de cette identité à certains égards que vous évoquez.
Franck Nouchi.
Oui, une anecdote à propos de Claude Lanzmann. On est en 1973 au Festival de New York et il présente un de ses films qui s'appelle « Pourquoi Israël ?». Et une journaliste américaine lui dit « Mais enfin, monsieur Lanzmann, quelle est votre patrie, la France ou Israël ?» Et Claude Lanzmann a cette réponse « Mais madame, ma patrie, c'est mon film ». Et je pense que ça dit aussi beaucoup de Claude, c'est-à-dire que son cinéma, ses films, au fond, il vivait avec eux, pour eux, et c'est ce qui lui importait le plus. C'est-à-dire qu'on les regarde, qu'on les commente, qu'on écrive dessus, et d'une certaine façon, être français, être israélien, être je ne sais quoi, il aimait la culture des pays, il aimait la culture française, il aimait aller en Israël à condition d'en revenir. Il aimait voyager un peu partout dans le monde. C'était un homme universel, mais fondamentalement, je crois qu'il avait raison au-delà de la boutade. Sa patrie, c'était ses films et sans doute aussi ses livres. Et en premier lieu, le livre de Patagonie.
Éric Marty, c'est peut-être là l'une de ses particularités, que d'avoir à la fois été contemporain de cette guerre et en même temps d'avoir eu un œil rivé vers l'avenir, Israël d'un côté, l'Allemagne de l'autre.
Alors, je dirais pas l'Israël d'un côté, l'Allemagne de l'autre, parce qu'on peut pas les mettre en symétrie.
Mais lui, ça faisait partie de ses univers de voyage.
Mais ils sont pas en symétrie au sens où l'investissement métaphysique n'est pas le même entre les deux. Là, je crois que pour l'Allemagne, il y a une sorte d'immense respect pour la culture allemande, pour la civilisation, pour ce qu'était l'Allemagne historique. Mais évidemment, Israël, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui est complètement au-delà. C'est l'espèce d'énigme absolue qu'est la création de l'État d'Israël. Pourquoi Israël est un titre absolument littéral, qu'il faut entendre littéralement.
Et sans point d'interrogation.
Voilà, sans point d'interrogation, bien sûr. Au sens où Israël est un pourquoi, est constamment associé à un pourquoi. Ce n'est pas une évidence. C'est l'inévidence absolue, Israël. Et donc, il est dans cette... Je dirais dans cette espèce de stupeur, cet étonnement. Il est dans la position du philosophe, au fond, de l'étonnement perpétuel devant l'existence d'Israël. Et surtout, c'est l'idée d'une normalisation du fait juif. C'est-à-dire que l'État d'Israël, comme pays, fait que, il y a des flics juifs, il y a des gangsters juifs, il y a des putes juives, il y a tout ça.
Et en même temps, il disait en Israël, il y a trop de juifs. C'est ça le problème.
Mais bon, c'est ça, c'est l'idée qu'au fond, l'État d'Israël est quelque chose d'un étonnement entièrement réel de quelque chose qui vient au monde et qui tout d'un coup métamorphose, transfigure la condition juive en quelque chose qui va devenir absolument indéracinable parce que ça existe. C'est plus destructible. Autant là, évidemment, l'être juif était menacé jusque-là constamment de destruction pure. Autant la facticité, pour employer un terme à la Sartre, d'Israël comme État, sa factualité, du sens de fait, à quelque chose de stupéfiant, de bouleversant pour Claude Lanzmann, au sens où maintenant, ça y est, l'État d'Israël existe, les Juifs existent dans un État, quitte à une normalisation, une banalisation, au fond, du fait juif, mais quelque chose est maintenant miraculeusement sauvé et va se perpétuer. Et il y avait, au fond, chez Claude, une foi dans l'existence d'Israël, qui était pour lui, je pense, quelque chose qui le liait en effet à Israël, même s'il pouvait être tout à fait critique quant à la vie quotidienne en Israël.
Oh, il l'était, oui. Juste, non, je dois ajouter un mot, c'est le fait que, c'est pas pour encore parler d'identité, parce que ça, je sais pas très bien quoi dire de ce genre de questions, mais il a reconnu, et ça fait partie de son œuvre finalement. Le rapport à Israël supposait qu'il l'avait dans Israël, alors qu'en effet il pouvait être critique, il pouvait penser ce qu'il voulait de et pas forcément du bien de la politique israélienne. Mais il faut penser absolument au-delà. La place que ça occupait pour lui, c'était quelque chose qui tient à sa propre personne, qui était la position d'un juif qui n'était pas une victime. Qu'Israël représentait ça. Le fait qu'il y ait une armée qui fait une police, qui est aussi des putes, ce qui va aussi très bien pour un pays. Mais c'était Claude et Israël. Claude s'est identifié d'une certaine manière, de ce point de vue-là, j'entends, à Israël comme le pays qui représentait justement le pays qui n'était pas le pays des victimes. Et que lui ne l'a jamais été, il ne s'est jamais identifié à une victime, il s'est toujours identifié à un combattant.
Et c'est peut-être l'un des privilèges aussi que d'avoir vécu longtemps, c'est que d'avoir vu évoluer aussi ce travail de mémoire et de construction, et la création de l'État d'Israël, la manière dont il a monté ses derniers films, Sobibor et d'autres. Est-ce qu'on peut parler justement d'un parcours aussi dans son œuvre cinématographique qui va dans le sens de tout ce qu'il a pu observer de ce temps?
Ben, c'est pas observé. Sobibor, c'est la réalisation de ça. Sobibor raconte ça.
Voilà.
Il trouve un personnage qui est l'incarnation, voilà, et qui était en plus devenu policier en Israël, ouais, si mon souvenir est bon, de l'incarnation exactement de ce qu'était pour lui Israël, et ce que ça représentait pour lui subjectivement, véritablement.
D'une histoire incarnée.
D'une histoire incarnée, mais de son histoire.
Et n'oublions pas non plus que la Shoah se termine sur le ghetto de Varsovie et sur le témoignage des gens, des juifs qui ont résisté pendant le ghetto de Varsovie. Donc, il y a sûrement une lecture qui m'agace beaucoup, c'est de voir justement de voir dans Shoah un film entièrement marqué par un pathos, non. Il y a cette fin extraordinaire où on a des témoignages de ce qui s'est passé, voilà, au ghetto, et donc des juifs qui, en effet, se sont battus, des juifs résistants, des juifs militants, qui étaient des hommes, qui étaient des guerriers aussi, des hommes prêts à se battre, et que Claude admirait.
Il est très important de ne pas réduire l'œuvre cinématographique de Claude Lanzmann au seul Shoah, aussi immense, aussi considérable soit ce film. Il faut avoir vu Sobibor, 14 octobre 1943, 16h. Il faut aller voir le rapport Karski. Il faut aller voir Le Dernier des Gens Justes. Il faut aller voir Les Quatre Sœurs pour comprendre la complexité de la pensée de Lanzmann. C'est-à-dire que quand on regarde ces films et qu'on les met bout à bout, on arrive à quelque chose que le seul Shoah ne permet pas d'appréhender. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on pensait qu'il avait tout dit. Eh bien non, il restait encore énormément de choses à dire, énormément de choses à comprendre, à montrer.
Et puis parce qu'aussi, ils ne sont pas de la même époque, ces films-là. Les rushs sont de la même époque, mais il ne les a pas montés à la même époque,
ils ont été montés, écrits, construits ensuite, au fur et à mesure de l'avancement de sa vie. Et il faut également aller voir Tsahal, il faut voir Pourquoi Israël, qui sont des films aussi qui donnent à comprendre qui était Claude Lanzmann. Et c'est que dans sa globalité qu'on peut appréhender. Il faudrait aussi rajouter ses articles dans Les Temps modernes, ses articles dans d'autres journaux. Ce type était considérable, considérable.
Éric Marty, vous avez fait... Gérard Wajmann, vous avez... Vous vouliez dire quelque chose,
Sûrement. Non, mais vous vouliez poser une question à Éric.
Vous avez agité, allez-y. Faites-le.
Non, moi je... Non, le côté considérable, c'est aussi à tous les films qu'on peut... Tout ce qu'a fait Claude fait partie de l'œuvre de Claude. Mmh. Et que lui-même revendiquait. C'est-à-dire, moi, il m'a montré à l'occasion, il était en train de rechercher des choses sur les petits films qu'il avait fait pour Dim Dam Dom. Mmh. À un moment, à la télévision, qui était tout de même pas... On aurait imaginé que c'était pas des œuvres auxquelles il pouvait... Des œuvres auxquelles il aurait tenu énormément. En fait, il y tenait beaucoup. Il était très content de ce qu'il avait fait. Et la manière qu'il avait eu d'interviewer des actrices, en particulier. tout ce qu'il a fait comme journaliste, comme à la télévision, etc., faisait partie de son œuvre, et pas au sens où il faut avoir une idée globale de ce qu'il a fait, mais parce que lui-même s'y reconnaissait, avec en ne mettant pas, en hiérarchisant pas les choses, même si bien sûr tout dépend de l'importance que Shoah a pu prendre dans cette œuvre.
Merci Franck Nouchi, merci Gérard Wajsman et merci Éric Marty d'être venu parmi nous aujourd'hui rendre hommage à Claude Lanzmann. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45, ce sera encore la grande table d'été, mais cette fois-ci à Arles à l'occasion des rencontres de la photographie. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julien Rosa, Arjuna Andrade, Louis Drillon, Anne-Toscane Viudès et Anna-Livia Marchaison. À la réalisation Marie Placé, à la technique Clément Daté. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr. Aujourd'hui, journée spéciale d'hommage à Claude Lanzmann sur France Culture. Il y aura de 14h à 18h, la rediffusion de l'intégrale en 10 épisodes de la série d'entretiens à voix nue, fait par Laura Adler en 2005. Et de 19h à 20h, ce sera la rediffusion du cinéma des cinéastes par Claude Jean-Philippe et Pierre Donadieu. Ils recevaient Claude Lanzmann en 1985 pour la sortie de son film Shoah. Eh bien, demain, on se retrouve.